France Musique. Musicopolis. Vers 1620, un dimanche, Milan. Le Duomo de Milan, précisément la cathédrale de la Nativité de la Sainte Vierge, est un bâtiment absolument monumental au cœur de la ville. C'est le siège de l'archidiocèse qui, vers 1620, a à sa tête le cardinal Federico Borromeo, depuis 25 ans déjà. La cathédrale n'est pas tout à fait terminée, elle n'a toujours pas de façade digne d'elle. Pourtant, voici 2 siècles et demi qu'elle est commencée. Une chose est sûre en tout cas, on demande à ses chanteurs d'y faire une musique digne de son faste gothique. Ce dimanche de 1620 à Milan, après la première lecture, on chante le psaume. Aujourd'hui, le psaume 118, Confitemini Domino, louez le Seigneur parce qu'il est bon, parce qu'éternel est sa miséricorde. Qu'Israël dise maintenant qu'il est bon, qu'éternel est sa miséricorde. Imagine comme la ferveur du chant de la Cappella de Milan doit inspirer les fidèles. Ce qui probablement réjouit le cardinal Borromeo, qui fait tout pour la propagation de la foi. Il a compris que si la musique trouve le chemin des âmes et des cœurs, c'est une voie qui s'ouvre aussi pour la parole sacrée qu'il veut faire entendre. Et justement, les chanteurs de sa chapelle sont particulièrement habiles à parer cette parole de mille feux et à lui apporter les ornements qui la rendront plus humaine et plus charnelle.
Thank you.
Les volutes et les arabesques du chant répondent au foisonnement de la décoration de la cathédrale. Les statues, les vitraux, avec la finesse incroyable de leurs meneaux, l'élévation générale. Voici donc ce qu'on pouvait entendre vers 1620, lors des messes dans la cathédrale de Milan. Un psaume assez simple, mais orné par les chanteurs de manière foisonnante, avec une richesse et une imagination qui n'ont rien à voir avec sa conception initiale. Conception qui devait se conformer aux préceptes édictés presque 60 ans plus tôt, au moment de la contre-réforme, avec un résultat qui aurait dû plutôt ressembler à ceci. Mais comment la musique chantée au Dôme de Milan a-t-elle pu se transformer de la sorte? Que s'est-il passé? Remontons un peu voir dans les années 1560, au moment du Concile de Trente. Celui-ci se tient pour essayer de répondre à la réforme initiée par Luther au début du XVIe siècle. La religion catholique s'est un peu laissée aller, elle a besoin alors qu'on lui redonne un cadre plus strict, y compris pour ce qui est de la musique religieuse. Belle musique, très belle musique, avec une polyphonie très mêlée, les voix qui s'entrecroisent, s'entremêlent, s'entrelacent, nuisant peut-être à la compréhension du texte. C'est ce qu'on remarque souvent dans les messes de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, ce dont s'émeuvent certains prélats. Vous vous dites peut-être que même si on ne comprend pas tout à fait les paroles de ce credo de Josquin des Prés, après tout, ce sont les paroles de la messe, des paroles que tout le monde a déjà entendues, et ce qui compte, c'est que cette musique élève, qu'elle porte à la dévotion. Oui, c'est vrai. Mais pour les pères de l'Église, qui se réunissent au Concile de Trente, et pour beaucoup de prélats du XVIe siècle, en dehors du problème de compréhension du texte, cette messe a un défaut impardonnable. Elle est construite sur un chant populaire. L'ami Baudichon, madame, l'ami Baudichon. Voilà sans doute qui ne peut se tolérer à l'église. Des paroles qu'on ne comprend pas, des messes qui reposent entièrement sur des chansons populaires, parfois même sur des chansons un peu lestes. L'Église ne pouvait tolérer ça, il fallait réagir. Depuis longtemps déjà, des voix s'élèvent contre les abus de polyphonie dans la musique qui rendent le texte incompréhensible. Il est vrai que le principe général d'écriture musicale est alors ce qu'on appelle le contrepoint. Imaginez une mélodie avec ses paroles chantées par un premier pupitre de chanteur. Puis une deuxième voix s'ajoute, elle aussi avec sa mélodie, et les mêmes paroles mais qui ne sont pas chantées au même rythme que la première, donc pas en même temps. Ajoutez encore une troisième, puis une quatrième voix. Vous pouvez facilement aller jusqu'à 6 et toutes ces voix sont indépendantes et donc elles génèrent un embrouillamini total du texte. Le contraire de ce que voudrait l'Église et qui ressemblerait plutôt à ceci. Dans la messe du pape Marcel, Palestrina fait tout pour qu'on comprenne les paroles. Palestrina cherche ici à rendre les paroles intelligibles. C'est que le Concile de Trente, et surtout la commission spéciale qui l'a suivi tout exprès pour recadrer les pratiques musicales, ont demandé expressément que le chant soit homophone, tout le monde en même temps sur les mêmes paroles qui doivent s'énoncer enfin clairement. Le style de Palestrina dans cette messe est en parfaite conformité avec cette nouvelle tendance esthétique. C'est le cas aussi de la musique de Vincenzo Ruffo. Vincenzo Ruffo est le maître de chapelle de la cathédrale de Milan, dont Carlo Borromeo, en charge de la commission musicale post-concile de Trente, est l'archevêque. On comprend que le prélat ait eu une certaine influence sur le musicien. Et en effet, Ruffo a publié en 1572 un recueil de messes dans lequel il dit suivre la forme recommandée par le Concile de Trente. Vincenzo Ruffo a montré dans certains passages de ses messes la bonne volonté avec laquelle il se conformait aux prescriptions du Concile. Une musique souvent homophone, avec une attention toute particulière à l'intelligibilité des paroles. Néanmoins, même ce musicien, gagné à la cause du Concile, sacrifie souvent dans sa messe au contrepoint, science des lignes mélodiques. De nombreux compositeurs, dont certains sont restés anonymes, se sont conformés aux nouveaux préceptes édictés après le Concile de Trente à propos de la musique religieuse. Ils ont écrit des musiques toutes simples, les faux-bourdons, dans lesquelles les versets sont psalmodiés à plusieurs voix sur un accord et se terminent sur une cadence. Cependant, dans la pratique, les chanteurs de chair et d'os ont toujours voulu laisser leur voix s'épanouir. Et plutôt que de psalmodier toujours sur la même note, ils introduisent des ornementations qu'ils improvisent sur le livre. cependant que les compositeurs s'attachent à écrire une musique très simple pour suivre les prescriptions post-concile de Trente, les temps changent peu à peu. À Carlo Borromeo succède son cousin Federico. Il sait que la foi a besoin d'être soutenue par la musique pour être plus accessible et il encourage tout ce qui peut aider à sa diffusion, comme par exemple donner leur place aux instruments et aussi enrichir le langage par l'ornement, tout comme on enrichit le décor de la cathédrale sans changer sa structure. Les chanteurs, eux, dans les églises, développent un art du chant et de l'ornementation dont on a l'idée seulement grâce aux traités de l'époque, comme celui d'un certain Giovanni Battista Bovicelli, publié à Venise en 1594. Bovicelli explique comment orner. Il décrit des dizaines, parfois centaines, de manières différentes de passer d'une note à l'autre, en particulier dans les faux bourdons. C'est en suivant des traités comme celui-ci que le poème harmonique peut nous donner aujourd'hui une image sonore vivante de ce que pouvait être l'exécution d'un psaume dans les années 1620. Le psaume Confitemini Domino d'un compositeur anonyme à Milan vers 1620, le poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Max Dozolm et Françoise Monteil pour les recherches et le site, Guillaume Ledu pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.